Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Parodian Rhapsody. Comme prévu, on continue l'analyse de la Cornetto Trilogy en passant au second film, Hot Fuzz. Déjà, il va être intéressant de comparer Hot Fuzz dans l'analyse avec son prédécesseur, Shaun of the Dead, dont je ne peux que vous conseiller l'écoute du dernier épisode. Cependant, il est également nécessaire, d'autant plus que la Cornetto Trilogy n'est pas une unité chronologique ou narrative, mais plutôt une unité thématique et même, dire presque assez limitée. On le verra, il faudra définir l'unité de la Cornetto Trilogy en fait. Et donc, il va falloir avant tout, je pense, analyser Hot Fuzz comme un film à part, même si il va falloir l'inclure dans le projet de Edgar Wright et peut-être savoir si Hot Fuzz permet de préciser, de clarifier, de quel changement on peut noter dans le projet parodique de Edgar Wright entre Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Donc on va devoir mélanger les deux approches. Rappelons tout d'abord des informations de base, une sorte de fiche sur Hot Fuzz. Alors là, pour le coup, je précise pourquoi je fais ces rappels factuels, en fait, ces éléments factuels qu'on peut retrouver sur Wikipédia, en fait. C'est simplement parce qu'une bonne partie de l'unité de la Cornetto Trilogy se trouve dans la répétition des acteurs, dans une certaine récurrence de l'équipe technique. Et donc, ça me paraissait nécessaire à chaque fois de savoir les différences, les sortes de transferts, les sortes de changements qu'il y a eu entre les films, en fait, tout simplement. Donc Hot Fuzz est un film sorti en 2007, soit 3 ans après Shaun of the Dead, et qui est tout réalisé évidemment par notre cher Edgar Wright. Bien entendu, l'unité donc va se retrouver au niveau des acteurs principaux qui sont encore là, et notamment les acteurs principaux Simon Pegg et Nate Frost, qui jouent respectivement ici Nicholas Angel et Danny Butterman. Alors une petite anecdote qui n'est pas forcément connue, mais faut savoir que le nom du personnage principal d'Hot Fuzz, donc ici Nicholas Angel, vient du nom du superviseur qui a travaillé dans les trois films de la Cornetto Trilogy, à savoir Nick Angel. D'ailleurs, pour continuer un petit peu sur cet aspect musical du film, il faut savoir que la musique alors, est en partie une compilation de titres britanniques, en fait, notamment on peut retrouver des morceaux de The Kinks, mais les morceaux originaux étaient composés par David Arnold, qui est l'un des compositeurs, par exemple, de la musique de Casino Royale ou de Sherlock. Plusieurs autres acteurs, secondaires ou tertiaires dans le film précédent, sont également présents dans Hot Fuzz, à des rôles également secondaires ou tertiaires, on notera. Avec notamment pêle-mêle Bill Nighy, Steve Coogan ou Martin Freeman, qui sont toujours en caméo. D'autres acteurs britanniques récurrents sont également présents dans le film, comme David Bradley, dit O.D. We're in Trouble, c'est-à-dire le personnage de Ruzard dans Harry Potter, désolé pour mon accent encore une fois, ainsi que l'ancien 007 Timothy Dalton ou encore Jim Broadbent. Toujours pour continuer dans ces caméos non crédités pour la plupart, on retrouve Cate Blanchett et Peter Jackson, ainsi que le réalisateur du film de H2G2, Gareth Jennings, qui sont ici à mentionner dans le film. Là aussi, la présence de ces personnes connues pour des amateurs de pop culture dénote du goût prononcé d'Edgar Wright pour cette culture pop un peu à tendance geek, que l'on a déjà pu apprécier dans Shaun of the Dead, mais qui est également intéressant de mentionner ici. A noter enfin également que Cate Blanchett est l'une des rares non-britanniques, à savoir qu'elle est australienne, dans ce casting, ce qui va bien inscrire Hot Fuzz, encore une fois, comme une œuvre particulièrement british, même si c'est une œuvre qui a aussi un certain rôle à jouer à l'international. Bien sûr, comme dans tout film de Edgar Wright, les genres sont des éléments fondamentaux pour comprendre la parodie, puisque ce sont les oppositions entre les genres, les mélanges, qui vont créer l'absurde, qui vont créer l'humour. Bon, ici, le genre le plus visible est celui qui est également un genre très traditionnel chez les Britanniques, puisqu'il s'agit du film policier à enquête dont on peut faire remonter les origines, en fait. Je pense à Sherlock Holmes, qui est l'exemple le plus évident à ce niveau-là. Bien sûr, beaucoup d'éléments nous permettent de voir que Shaun of the Dead est effectivement un film policier de type enquête, de type un peu détective comme ça. On pourrait reparler par exemple de l'importance cruciale de la structure scénaristique qui est reprise de certains films policiers plus assez détectives. Donc, au début, le héros est dans son milieu naturel, puis une péripétie vient bousculer ses habitudes. Ici, il est forcé par ses collègues de travail à partir à la campagne et à prendre une sorte de retraite forcée. À son arrivée, il constate que quelque chose semble louche dans l'air, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et à ce moment-là, durant les scènes d'exposition, le but va être de mettre en avant le plus d'éléments louches, mais qui ne sont pas mis en avant et qui n'ont pas encore de lien pour l'instant. Ainsi, la totalité des éléments qui nous vont nous permettre de comprendre l'intrigue et de nous permettre de résoudre l'intrigue sont en général déjà présents dans les scènes d'exposition. Et plus les scènes passent, en réalité, plus ces éléments s'accumulent. Notamment, les questions des meurtres ici vont s'enchaîner et les preuves vont s'accumuler jusqu'à ce que tout fasse sens et que l'héros découvre la vérité que, idéalement, le spectateur n'a pas soupçonné. S'ensuit aussi une phase de résolution qui doit s'appuyer sur la plupart des éléments, si ce n'est la totalité, quand c'est bien fait, des éléments apparus dans la phase de build-up. Et enfin, en général, on a une conclusion assez riche en surprise, en fait, puisqu'on va découvrir qui est le coupable. Et enfin, on termine en général par un épilogue. Donc, c'est globalement, je sais pas si c'était très clair comme explication, mais en tout cas, c'est la structure qu'on retrouve en général dans les épisodes de Scooby-Doo. Qui est vraiment... Vraiment, c'est une structure où on voit les poutres en général chez Scooby-Doo, parce que c'est pas... Ils s'emmerdent pas trop en fait en termes de scénario. En tout cas, si vous voulez vraiment un exemple particulier de cette phase de scénario, c'est vraiment l'exemple le plus frappant selon moi. Cependant, pour le coup, le film est réfléchi et joue bien évidemment avec les codes, notamment la question de comment on va représenter l'ambiance louche est très intéressante, puisqu'il utilise notamment beaucoup de lapsus ou de phrases à double sens qui créent l'humour. Donc les choses sont rendues légèrement grossières, absurdes en fait, c'est simplement pour permettre à Edgar Wright de lancer un petit peu une sorte de caricature de ce scénario, en tout cas de cette structure scénaristique qui revient régulièrement. On peut également voir les personnages sous cet angle typique du film de détective, à savoir un héros supérieur, donc Sherlock, mais ici c'est notre ami Nicholas, qui est aidé par un collègue aux qualités complémentaires et qui ensemble doivent imposer leur vision de la situation avant qu'il ne soit trop tard, voyant des éléments que les autres ne peuvent voir. Enfin, dans ce film, il y a également des scènes classiques de films détectives qui sont présentes, notamment des nombreuses scènes de course-poursuite. Mais bon, je n'ai pas voulu m'attarder énormément sur ces points, puisque c'est des éléments qu'on a déjà étudiés à travers le film de zombies dans l'épisode précédent. Et selon moi, il y a des choses beaucoup plus intéressantes, en tout cas des choses qui sont beaucoup plus présentes dans ce film comparé aux autres, que j'aimerais ici développer. Comme on l'a rappelé, l'absurde des décalages et l'exagération est le moteur favori de la comédie et de la parodie chez Edgar Wright. Ici, un élément parodique crucial du film est donc le lieu qui a été particulièrement travaillé par l'équipe, à savoir ici le village Cottage de la campagne britannique. Alors déjà, faut faire attention aux mots. Il s'agit bien d'un village et il y a une vraie volonté du réalisateur pour que ce village soit bien un village. Le lieu de tournage, Wells, dans le Somerset, a dû être numériquement remanié pour le transformer en village, le village qui se définit donc par une absence de cathédrale. Dans tout cas, la définition britannique est celle-ci. La cathédrale de Wells, donc, qui est officiellement une ville, a dû être supprimée en post-production et les scènes ont dû être tournées avec cette contrainte-là. En bref, pour le coup, les intentions du réalisateur sont notables et il y a eu un vrai travail d'effort pour que, simplement, cela soit perceptible. D'autant que justement, le lieu de tournage a été choisi avec soin, puisque Wells se trouve être le lieu de naissance de Wright, et ainsi que le lieu où il a grandi. On peut noter notamment le fait qu'il ait travaillé durant sa jeunesse dans le supermarché montré dans le film, ou encore que certains personnages présents dans le film sont inspirés de certains qu'il a côtoyés dans la vraie vie, notamment le patron du supermarché qui est inspiré du patron réel, en tout cas celui de l'époque de Wright. Beaucoup de choses personnelles sont également présentes dans le film, puisque notamment lors de la scène de paperasse au début du film, on retrouve une musique de son groupe favori, choisi avec soin donc, le John Spencer Blues Explosion. Encore, on retrouve la présence des dessins de son frère Oscar lors du petit flipbook un peu sanglant de Danny. Bon, au-delà de toutes ces anecdotes qui sont demeurant très intéressantes et très drôles, on remarque que effectivement le film met l'accent sur quelque chose de particulier, à savoir le lieu, qui pour moi fait toute l'originalité du film par rapport aux autres, En effet, le village anglais de type cottage est un lieu sous-représenté à la fois dans les films policiers à tendance action et relativement sur-représenté, en tout cas très présent par contre, dans les films policiers britanniques un petit peu enquête. On a notamment de nombreuses occurrences de ce village dans le travail de Sir Arthur Conan Doyle, dans ce village typique, cet archétype, notamment dans Le Chien de Baskerville, ou encore plus récemment dans ce qu'on a observé avec la série Broadchurch. Donc c'est donc une dimension de ce film policier britannique particulier qui fait ici, pour le coup, toute la différence.
Que le ciel verse des larmes.
Je me demandais si vous aviez une chambre.
Une chambre? Mais tu as toujours été ici.
Je vous demande pardon.
Oh, je suis désolée. Je croyais que c'était mon époux. Vous devez être le lieutenant Angel.
Oui, madame.
Je m'appelle Joyce Cooper. Vous avez fait un voyage agréable, fasciste.
Je vous demande pardon.
Système politique caractérisé par un régime totalitaire. C'est horizontal.
Oh, je vois, c'est fascisme.
Fascisme merveilleux. On vous a réservé la suite du château. Bernard va vous accompagner.
Inutile de le réveiller. Je vais me débrouiller tout seul. Carne.
Je vous demande pardon.
Vieille femme acariâtre, méchante et laide. 12 verticales.
Oh, merci.
Or, on remarque par le titre de Hot Fuzz, ou encore par l'imagerie du film également, notamment la couverture ou les affiches, que le film va également être un film à tendance action. Or, dans le film d'action, on attend du lieu qu'il soit le théâtre d'une vie palpitante avec de la foule, du trafic, des économies souterraines. Le film d'action policier implique donc, apparemment, la ville. Et si l'on prend 21 Jump Street, on remarque en réalité que, par exemple, dans ce film à comédie policière, tout repose sur la ville et sur les échanges sociaux, ainsi que sur la densité de la vie sociale. Ou encore, si on reprend les références marquées du film, à la fois Point Break ou encore Bad Boys 2, là aussi, la ville, ici américaine, est clairement le centre de tout. C'est également l'univers du personnage de Nicholas, au début du film, qui vit justement à Londres pour le coup au tout début, et qui est justement montré comme de ces archétypes. Au contraire, l'esthétique du film policier britannique se fonde sur l'ambiance. Pour quiconque qui a lu Le Chien de Baskerville, justement, il sait que la nature et la brume y jouent un rôle très précis. Ici, le monde d'humain installe un climat assez terrifiant, assez pesant. Ou encore, pour prendre un exemple plus contemporain, dans la série Broadchurch, il est très difficile aux deux enquêteurs de mener l'enquête dans une société qui est traditionnelle et qui est régie par la solidarité de type mécanique. Donc pour le coup, là je vais amener 2-3 éléments de sociologie, mais qui me paraissent vraiment très intéressants pour appréhender justement la différence fondamentale qu'il y a entre une ambiance de type ville et l'ambiance de type village, et donc pourquoi le film policier britannique de type enquête semble tellement s'intéresser à ce village-là, et en quoi ça va être intéressant à étudier dans Hot Fuzz. Donc pour le coup, je vais parler de Émile Durkheim, qui est un sociologue des origines et qui écrit à l'époque du premier état rural sur une opposition entre deux sociétés, à savoir la campagne et la ville, qui se régit toutes deux par deux types de solidarité différentes. Le village de campagne, dit société traditionnelle, régit par la solidarité mécanique, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui sont très proches, très liées, tout le monde se connaît et d'une certaine manière tout le monde se juge. Les normes et les valeurs sociales sont très fortes et très partagées, et chaque écart à la norme est vivement sanctionné, ce qui remet en cause l'unité du groupe. Au contraire, dans les villes, dites sociétés modernes, la solidarité est organique et il y a moins de proximité de par la forte densité de population. Les individus sont plus dissemblables et se regroupent en groupe, justement, à l'intérieur de cette société.
Thank you. Comment pourrais-je me trouver à plusieurs endroits au même moment? Comment pourrais-je me trouver à plusieurs endroits au même moment? Comment pourrais-je me trouver à plusieurs endroits au même moment?
Je n'arrive toujours pas à croire que Leslie nous ait quittés. Comment ça s'est passé?
Vous verrez que nous sommes une équipe très disciplinée.
Qui irait commettre de tels actes?
Je dirais que M. Merchant a voulu faire une petite friture. Dommage qu'il ait laissé le gaz ouvert. C'est moche de finir comme ça.
Qu'est-ce qui s'est passé, Danny?
Vous ne l'avez toujours pas attrapé, cette bande de tueurs? Vous ne l'avez toujours pas attrapé, cette bande de tueurs?
Bonjour, commune.
J'ai une petite annonce à faire avant de commencer. Janet Barker a décidé d'appeler ses jumeaux Roger et Martin. Le baptême aura lieu samedi en 8 et nous sommes tous invités. Tom?
Merci, Joyce. Bien.
Les éléments que l'on tire de cette analyse de la solidarité mécanique dans les villages correspondent justement tout à fait à ce qui permet de transcrire une ambiance de malaise dans les films policiers britanniques à enquête, donc qui se passe dans les villages. Que l'on retrouve ici à l'extrême à l'intérieur de Hot Fuzz. L'arrivée d'étrangers est très mal vue, et le nouveau doit rapidement montrer des signes de bonne volonté pour adopter les normes et valeurs du groupe. Et s'il n'y a pas adaptation, il y a un risque d'exclusion sociale du nouveau venu. On observe à travers l'opposition des codes de la ville que possède Nicolas à son arrivée, que simplement il va devoir s'adapter rapidement puisque les codes de la ville ne s'appliquent pas à la campagne. Il y a une dualité entre les deux espaces, même au niveau quasiment des lois, les lois de, notamment en termes de la régulation de l'âge où l'on peut boire. C'est un espace également régi par des enjeux différents, notamment la question de la statue vivante, qui est un élément ici du comic, avec presque un langage différent, en tout cas d'une partie de la population, puisque fortement marqué ici par un accent incompréhensible. Une bonne partie de l'intrigue réside sur de nombreuses accentuations qui poussent jusqu'à l'absurde l'enjeu de ces villages. De l'archétype du fermier armé et rustre, d'où le jeu de l'acteur, à savoir Rosard, donc le personnage ici d'Harry Potter, à la nécessité de paix et de tranquillité au sein du village. Bref, beaucoup d'éléments que j'ai pas forcément envie de vous spoiler, puisqu'ils font partie de l'intrigue, mais qui font dans le sens de la reproduction et de la situation de cet archétype du village, notamment aussi l'importante présence de personnes âgées, en tout cas d'acteurs qui sont relativement âgés et qui jouent des personnages âgés, et dont la riche exploitation est clairement une des forces originales du film. En réalité, on remarque que tous les personnages sont subordonnés dans leur rôle au lieu qu'ils habitent en fait. Tout simplement, les personnages sont souvent reliés directement et de manière prégnante à leur rôle, que ce soit la policière avide de sous-entendus, qui est un archétype là aussi, on le voit ça par le journaliste local, il s'appelle Tim Messenger. Même dans son nom, il est lié à son rôle dans le village, et donc au village lui-même. Au-delà des personnages, toutes les scènes s'appuient énormément sur les lieux et événements caractéristiques du village, que ce soit le bar, le commissariat, le supermarché, l'église ou encore la kermesse du village pour réparer le toit de cette dite église. On se nourrit donc ainsi du lieu et de la solidarité décrite pour construire le scénario.
Celui qui va nous donner le nom des vainqueurs est la nouvelle recrue des forces de police de Sanford, le lieutenant Nicholas Angel.
Daltringue, branleur.
Bonjour. Bonjour.
Le premier gagnant s'appelle Simon Skinner.
Il est au water.
Il a bu beaucoup trop de limonade comme d'habitude.
Team Messenger.
Team, vous comptez pour cette fois.
À noter qu'une itération française de ce que l'on peut retrouver dans ce film peut être l'enquête corse de Alain Berberian. Ainsi, je pense que ça peut être intéressant de regarder les films l'un après l'autre pour voir à la fois qu'est-ce qu'il y a de particulièrement britannique ou de français dans l'un ou l'autre des films, mais également de voir simplement l'idée que le village est un lieu très intéressant dès que l'on veut faire quelque chose de policier. Mais en plus de cela, dans Hot Fuzz, on a également l'archétype, encore un autre, vous allez me dire, du village trop parfait, plus que dans, ce qui est dans l'Object Course, d'un village mené par la loi du silence. Ici, pour le coup, c'est vraiment l'archétype, non pas de cela, mais du village trop parfait. Le film se repose aussi sur l'idée que notre point de vue est celui de Nicolas, qui est un nouvel arrivant, et qui va être à même d'observer cette espèce de normalité, cette espèce de côté trop lisse, qui est forcément louche et qui cache apparemment forcément quelque chose. C'est une idée qui est la base d'un célèbre épisode des Simpsons, à savoir la saison 8 épisode 2, Un monde trop parfait, de son titre, qui est une déclinaison ici à l'américaine à travers la ville de Cypress Creek, d'ambiance trop normale, qui cache justement, on a toujours cette suspicion de savoir qui cache forcément quelque chose en fait. Pour résumer, ici on a une multitude d'archétypes, à savoir le village à cottage de la campagne anglaise qui ici représentait avec beaucoup de précision dans sa caricature. Par rapport à ce qu'on peut avoir dans Sherlock Holmes, donc l'œuvre de Conan Doyle, pas la série contemporaine, on a également une modernisation puisque cet élément de village trop parfait est relativement récent. Cette focalisation autour du village et de l'ambiance qu'il évoque est un signe du fait que Edgar Wright a bien compris que le genre détective britannique utilisait donc ce type de société pour créer un climat de tension et de danger permanent pour les enquêteurs. Les caricatures reposent ici sur plusieurs éléments, notamment la cristallisation de nombre de modèles de villages britanniques en un seul, à la fois donc un village trop normal, qui est trop beau, et qui a une population en partie marginale, notamment avec le fermier, mais surtout c'est une caricature qui porte sur l'accentuation des éléments récurrents montrés dans les films, notamment l'artillerie du fermier, ou l'importance donnée à l'unité architecturale du village, en passant par l'élément central, l'exigence et la revendication, de la tranquillité du village qui va contraster, mais surtout la caricature porte sur l'accentuation des éléments récurrents montrés dans les films, que ce soit l'artillerie du fermier ou l'importance donnée à l'unité architecturale ou en passant par l'unité centrale, à savoir l'exigence et la revendication de la tranquillité du village qui va contraster avec la folie et l'horreur qui va amener l'opposition avec d'autres genres.
On a besoin de son maître. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit une vie chez une vie, après chez il faille, chez qui il a vu et été chrié, chez foie cinéma.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit une S et une S, il l'a taillé, c'est parce que sa vue était bouchée, c'est quoi tout cinéma ?
D'accord. Écoutez, je comprends votre position, monsieur Webley, mais vous ne pouvez pas couper les haies de vos voisins sans leur permission.
Oui,
je suppose.
Oui, je suppose. Merci.
De rien.
Monsieur Webley, j'imagine que vous avez un permis pour cette arme.
Rien pour lui, là.
Il a un fou celle-là.
Il en a un pour celle-là.
Qu'entendez-vous par celle-là ? Où est-ce que vous avez acheté tout ça ?
Oui,
il les a trouvés.
C'est quoi ?
En effet, vous connaissez la recette. La parodie fonctionne toujours ainsi chez Edgar Wright. Il va y avoir un décalage qui va être créé entre la caricature d'un genre connu, ici l'esthétique du film policier britannique à la campagne de type détective, de type enquête, avec des genres différents, des styles différents. Ici le film d'action américain. Et pour le coup, on va voir ça au niveau des personnages en fait. Le début du film nous expose le curriculum de Nicholas, qui est présenté comme un super flic, qui est d'ailleurs une des traductions possibles du titre, et qui est de fait la personne la plus à même d'être l'archétype de la star d'action hollywoodienne. On remarque même d'habitude dans les comédies policières, ce genre de scène d'introduction montre plutôt l'échec des personnages à être démons flic. Là c'est totalement l'inverse, on nous montre l'excellence du flic qui même viserait pour être un trop bon flic. Ainsi, si l'on compare l'introduction de Hot Fuzz avec celle de 21 Jump Street, on a l'exact contrepoint. C'est plutôt habile, selon moi, de la part d'Edgar Wright, qui annonce ainsi dès le départ qu'il ne va pas faire une comédie policière comme les autres. L'élément central de cette dualité, de genre en tout cas, va être la relation fondamentale entre les deux personnages principaux, Nicholas et Danny. Danny, qui est justement un très grand fan des films policiers action américains, et l'autre, Nicholas, qui représente plus le policier qui a la connaissance de la réalité sur le terrain. Cette relation est plutôt complexe à analyser d'un point de vue parodique, puisque la relation avec le policier de film d'action est d'abord refusée par Nicholas, puis totalement embrassée par lui lorsque ce film se lâche complètement. Mais globalement, ce qu'on observe en termes de décalage est justement l'intérêt de ce refus progressif de Nicholas d'être cette star d'action, puis la nécessité d'acceptation de ce rôle de super cop. L'arrivée à la campagne demande à Nicholas d'arrêter de se comporter avec autant d'intransigeance, seulement confronté dans ce village à des délits jugés mineurs et à des enquêtes de petite envergure. Nicholas représente ainsi l'hypothèse de ce que serait un super cop dans la vraie vie, et notamment à travers son incapacité à décrocher de son travail et d'avoir des rapports un peu plus distanciés avec les lois. Puis, à la fin du premier acte, il aimerait réendosser ce costume de super flic malgré l'opposition des détectives qui ne prennent pas l'affaire des accidents, entre guillemets, au sérieux. Peu à peu, dans ce second acte, Nicholas doit choisir entre écouter l'avis des autres qui lui disent que son interprétation des accidents en tant que meurtre est liée à son statut de super flic et le fait d'écouter son instinct de super flic justement. Et on a ça jusqu'à la fin du second acte, qui marque la fin du build-up, de la construction des éléments, et du coup de théâtre révélateur. Danny va justement évoluer en contrepoint de Nicholas, d'abord idolâtrant les policiers d'action des films sans être un vrai policier, puis apprenant à en être réellement un avec tout ce que ça demande, également d'ennui et de paperasse. Puis enfin pouvant apporter sa connaissance des films d'action à Nicholas, pour que eux deux puissent devenir un duo de choc typique, simplement de ce genre de film qu'on peut voir notamment dans Bad Boys 2. La parodie vient donc ainsi qu'on ne part pas avec un donné de héros, mais que ces derniers se détachent peu à peu du réel pour entrer dans l'imaginaire, ce qui est en fait le chemin inverse que l'on peut voir d'habitude. En clair, ce film est une parodie car il part du réalisme ancré, propre à l'esthétique des films policiers détectives britanniques, pour arriver à la folie des films policiers d'action hollywoodiens. Ainsi, contrairement à des films comme Last Action Hero, où l'on déconstruit le mythe du héros, là, pour le coup, on le construit.
Dire comment je veux que ça se termine.
Tout cela est un moteur de l'absurde, puisqu'on exagère l'esthétique réaliste à la fois du genre détective, mais aussi des enjeux du lieu. Ainsi, il m'est impossible de ne pas parler du concours du plus beau village, qui tient tellement aux habitants que ça en devient clairement ridicule, de même que le taux de criminalité zéro. Plus sans dire, ça a malheureusement spoilé des éléments majeurs de l'intrigue du film, mais ceux qui ont vu Hot Fuzz ont remarqué qu'à travers cet élément, on voit bien la transition et le changement de règles qui se passe à la rupture entre les deux genres. Ce changement de règles entraîne le fait que ce film se lâche beaucoup plus avec les codes, mais cela est également dû à d'autres éléments, notamment l'incorporation en plein milieu des histoires de détectives, une monstrisation du tueur en série, présentée sous les attraits de la mort en personne, accompagnée d'une musique et de successions de plans très rapides que l'on retrouve dans l'esthétique ici des films d'horreur. Ainsi, plus le temps avance et plus le film ose des choses, notamment la mort très violente du personnage de type Messenger, qui dénote totalement avec tout ce qui est montré avant, avec des effusions de sang qui se répandent notamment jusqu'à l'objectif de la caméra. La présence inopinée de la grande faucheuse en plein milieu de ce film est l'un des coups de pied humoristiques les plus violents donnés au réalisme. Là aussi, un parallèle intéressant peut être fait avec un autre film français, à savoir le premier Pamela Rose. Dans cet autre film parodique, il y a aussi une introduction, pour le coup je pense bien moins subtile, de certains codes de l'horreur. En clair, le film d'action américain vient se confronter ici au genre détective britannique dans un match en plusieurs rounds, ce qui correspond à une complexification du mélange entre les genres. Le jeu entre le réalisme d'un Sherlock Holmes et l'irréalisme d'un Bad Boys est ici au cœur du film, et ce à plusieurs niveaux, notamment dans la relation entre les personnages. Mais cela vient avant tout du mélange que représente Nicolas. Il doit à la fois jouer le rôle de détective, grâce à ses capacités intellectuelles, mais est aussi un héros au cœur de l'action, grâce à ses capacités physiques. La complexité vient donc avant tout de Nicolas seul, qui représente une approche purement réaliste de ce que serait un héros d'action dans notre quotidien. Le rapport à la culture est ici, d'ailleurs, apporté par des références cinématographiques, notamment celle de Danny, qui permettent au personnage mais aussi au film de prendre son envol sur la piste de l'absurde, se permettant des incursions dans le slasher, ce qu'on a vu précédemment, mais pour le coup version Bacon and Beans, donc un film d'horreur avec des codes britanniques. Là encore, l'œuvre de Edgar Wright s'inscrit dans une dimension culturelle qu'il nous faut approfondir, d'autant que par définition, une parodie est un objet culturel éminent et en tout cas particulier. Et pour le coup, j'aimerais vraiment finir sur une vision du film parodique chez Edgar Wright comme un pot pourri de peut-être même une chronologie des genres au cinéma dans une grande montagne qui essaye de faire évoluer et qui essaye un petit peu de se moderniser en termes de cinéma, notamment en développant un comédie inédit à travers la déconstruction des codes et de la ségrégation des aires géographiques. Pour moi, clairement, ce film est bien plus qu'une parodie des films à la Miss Marple. La façon dont les genres sont mélangés et détournés donne un sens à toute une entreprise qui est donc la modernisation et la volonté de folie. Il est ainsi très intéressant de retrouver des fans de cowboy en plein milieu de Village at Cottage en la personne de l'inspecteur. Pour le coup, le cowboy représente au cinéma l'une des premières itérations du héros d'action, notamment aux États-Unis. Après tout, n'était-ce pas John McClane dans Die Hard qui nous disait « Yippee-kay, pauvre con ». On remarque ainsi un clivage intéressant entre ce que représente en termes de genre, la jeunesse et les plus vieux. Je pense que ce que l'on peut en déduire, et encore une fois je ne veux pas trop m'avancer dessus, c'est que ce film correspond à une sorte de passation de pouvoir entre les genres populaires d'hier et ceux d'aujourd'hui, qui se retrouvent ainsi mélangés pour les mettre sur une sorte de pied d'égalité. Les genres d'aujourd'hui ne sont pas plus stupides que ceux d'avant, mais le film d'horreur ambiance ou encore le film policier d'action ne doivent pas cependant oublier leurs origines, à savoir cette ambiance un peu chien de Baskerville ou Poe, très ludique pour l'un, et le western spaghetti pour le film d'action. On retrouve cela justement avec des oppositions nettes entre les jeunots et les vieillards dans l'intrigue même du film. Un autre élément se trouve être présent au sein même du casting, certains des plus vieux étant joués par d'anciens grands acteurs comme l'ancien 007. À l'époque de la sortie du film, il faut aussi se rappeler que Peggy Frost, qui était des acteurs déjà reconnus, devait cependant s'affirmer dans le milieu du cinéma, notamment à l'international. On a donc ce choc des générations, mais qui est si très sain, puisque Wright réhabilite certes des genres modernes, mais respecte aussi les genres les plus traditionnels. Pour lui, la clé du cinéma et de ce cinéma est donc d'évoluer sans oublier ses origines, et ainsi, non pas s'opposer à ce qui était fait avant, mais travailler et construire par rapport à un héritage donné. Aussi et enfin, il ne faut pas oublier que l'on parle d'aires géographiques différentes, et notamment de différences culturelles. Si on retrouve l'anglo-saxon en point commun, le cinéma british et américain sont deux cinémas différents, et le fait de les mélanger dans un film montre l'importance d'un monde globalisé, et il serait stupide, je pense aujourd'hui, de faire un cinéma chauvin, comme le fait un peu la France, il le fait à travers la notion d'exception culturelle qui semble enfermée dans une tradition et dans un phrasé qui ne représente plus rien pour personne. Ce que Wright préconise au contraire pour le cinéma britannique, c'est justement la beauté de la folie de ce film qui ose mélanger des genres propres à deux aires différentes et de voir justement que ces mélanges peuvent être détonnants, mais avant tout passionnants. Pour résumer, Hot Fuzz est une parodie qui évolue et qui se complexifie par rapport à Shaun of the Dead. On retrouve une prise de liberté dans les mélanges, des genres notamment, qui est beaucoup plus grande qu'avant, puisque la structure ne se limite plus à deux seuls genres. La finesse des codes est également accrue, notamment ce qu'on a vu à travers l'exploration du concept du village cottage british, avec le genre policier britannique à enquête. Enfin, bien plus qu'idolâtrant les genres neufs en crachant sur ceux anciens, Wright possède ici une finesse, celle d'exploiter le potentiel de chaque genre, ce qui ouvre ainsi des perspectives intéressantes en termes de mélange culturel totalement fou, totalement barré. Ainsi, la qualité principale qu'il faut reconnaître à Hot Fuzz est sa folie douce, ainsi que son plus grand gage de modernité. Voilà pour ce second épisode consacré à la Cornetto Trilogy. Bien évidemment, sur le l'épisode de décembre, nous allons nous intéresser à The World's End. Cependant, je vous réserve pour ce dernier épisode de la première partie de saison une petite surprise, vous allez voir. Nous allons essayer également peut-être de réfléchir, enfin en tout cas moi je réfléchis, à une petite annexe concernant le comic visuel d'Edgar Wright. Ça serait essayer de tenter une annexe vidéo très très courte, très rapide. Ça me semble quand même dommage de parler autant du travail d'Edgar Wright sans jamais en montrer une seule image, d'autant que il est défini comme le patron un petit peu du comic visuel. Donc on va voir un petit peu ce l'on peut faire. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une bonne écoute des autres émissions de Radio Kawa et je vous souhaite également une très bonne journée, soirée, je ne sais pas.
Il faut regarder du porno, mais il faut le regarder intelligemment.
Ce genre de phrases très intelligentes, vous ne pourrez les entendre que dans Allo Central, le podcast de Radio Kawa qui parle de tout, sauf de porno en fait. Ciné, séries, littérature, BD, musique et sorties, les chroniqueurs vous présentent tous leurs coups de cœur et font le tour de l'actu avec bonne humeur, avec en plus le rire de Clémence. Allo Central avec Alex le serveur et Luxbox,
c'est génial.
Et c'est sur Radio Kawa.
Flash Info, la France a peur. Coups, meurtres, têtes arrachées, corps électrocutés, masques répugnants, bêtes horribles, démons rugissants. Nous venons d'apprendre le lancement d'un podcast sur le Japon. En direct, la réaction de Ségolène Royal.
Ah, qui a caché vos enfants? Ils arrivent!
Radio Kawa présente LOL Japon.
Animé, manga, jeux vidéo, visual novel, le pire et le meilleur du Japon.